Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14 heures ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel. On profite de cette dernière semaine de vacances pour vous raconter quelques histoires avant la reprise du mardi 21 février de notre direct avec toute l'équipe. En attendant, voici quelques histoires pour nous rappeler à votre bon souvenir. Histoire de voir, histoire au pluriel. Car vous l'aurez noté, nos dernières émissions ont été annulées pour cause de grève générale à laquelle nous participions dans ces foules considérables tant à Bordeaux que dans toute la France. Le jeudi 16, c'est-à-dire dans deux jours, une nouvelle mobilisation se met en place à l'appel de l'ensemble des syndicats contre ce projet qui n'est pas une réforme, mais une contre-réforme. Cette contre-réforme touchant le droit à la retraite et à nos conquis sociaux.
La retraite, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la conserver. On connaît la chanson, eh bien on la reprendra tous ensemble en chœur jeudi 16 février.
Revenons à notre histoire du jour. Une histoire que nous avons trouvée dans un article du Monde Diplomatique daté d'août 2022 concernant la sortie du livre L'Inventeur, livre écrit par Miguel Bonnefoy, édité chez Payot Rivage.
Je dois avouer que j'ignorais parfaitement l'histoire d'Augustin Mouchot, fils de serrurier de Semur-en-Auxois, né en 1825 et mort en 1902. Modeste instituteur, puis professeur, il devient chercheur, ingénieur et enseignant français pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Ses recherches portent sur l'énergie solaire, il a inventé les premiers outils de conversion.
Nous le verrons dans les extraits du livre de Miguel Bonnefoy, cet inventeur non seulement a trouvé le moyen de convertir l'énergie solaire en énergie thermique, inventant le premier moteur solaire à un réflecteur parabolique et une chaudière cylindrique pour alimenter une petite machine à vapeur.
Présenté à Napoléon III en 1870, la machine disparaîtra au cours du siège de Paris par les Prussiens. Il reçoit malgré tout l'autorisation de continuer ses travaux en Algérie, alors département français, son associé lui volera ses plans. Augustin va donc mourir en 1912 à Paris, dans la misère, et retournera ainsi à l'anonymat, d'autant plus que l'industrie tablait sur le charbon. Voilà une histoire comme on les aime.
Nous vous régalerons de quelques extraits de ce roman, L'Inventeur Paris aux éditions Payot, Rivage, écrit par un jeune et brillant écrivain, Miguel Bonnefoy, à l'origine franco-vénézuélienne et déjà récompensé de nombreux prix littéraires. Écoutez notre émission Histoire de voir, histoire au pluriel, et vous saurez tout sur la vie d'Augustin Mouchot.
Extrait. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites, rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée, ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même, et, malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe d'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. À le voir, il n'appartient à cette race d'immortels sans mémoire au nom interdit. Si Augustin Mouchot est l'un des grands oubliés de la science, Ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, moins brillant dans ses découvertes. C'est que la folie créatrice de ce savant têtu, froid et sévère, s'est acharnée à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, le soleil.
Or, à cette époque, au début du 19e siècle, personne ne s'intéressait au soleil. La France, tournant le dos au ciel, s'affairait à fouiller les entrailles de la terre pour y extraire tous les jours des milliers de tonnes de charbon.
Et parmi toutes ces activités, il y en avait une qui en consommait en grande quantité, car elle consistait à produire une chaleur suffisante pour tordre le fer, la serrurerie. En ces temps, les serrureries conservaient encore la rusticité médiévale des vieilles forges où l'on battait le bronze pour faire des rampes d'escalier, où l'on bâtissait des grilles en métal pour les jardins des villages, mais elle s'était développée avec plus de finesse le jour où Louis XVI, avant d'être guillotiné sur la place de la Révolution, la place de la Concorde actuelle, avait ouvert un atelier aux étages supérieurs de ses appartements de Versailles. Pendant 30 ans, dans la plus grande clandestinité, le dernier roi de France s'était amusé à reproduire à l'identique les fermetures des portes de son château, les loquets, les systèmes de sécurité, et on disait qu'il avait lui-même conçu la serrure de l'armoire de fer qui cachait les lettres volées des monarques, dont il gardait la clé attachée à un collier autour de son cou. Ce n'est que bien des années plus tard, devant une foule en délire lorsque sa tête roula sur l'échafaud, qu'un jeune bourguignon, nommé Jean Roussin, assistant au spectacle, trouva une clé en argent dans la boue, cachée dans une touffe de cheveux. Il l'a vendu, rue Saint-Denis, sans imaginer qu'il tenait entre les mains le secret le mieux gardé du royaume.
Avec cet argent, il ouvrit une serrurerie en Côte d'Or. Avec cet argent, il ouvrit une serrurerie en Côte d'Or à Sémur en Auxois. Il s'installa dans une maison sur les berges de la rivière Amance, où il se maria et eut 5 filles. 15 ans plus tard, la dernière, Marie Roussin, une jeune fille silencieuse et mélancolique, tomba amoureuse d'un des apprentis de son père, un certain Saturnin Mouchot, et passa le reste de sa vie à accoucher de 6 enfants dans une ruelle voisine. Ainsi naquit, le 7 avril 1825, à l'ombre des rues du Pont-Joli et de Varennes, dans l'arrière-salle d'un atelier de serrurerie, l'homme qui devait inventer l'application industrielle de la chaleur solaire. On nomma l'enfant Augustin Mouchot.
Augustin Mouchot sera chargé en 1860 de la suppléance de la chaire de mathématiques au lycée d'Alençon. Il découvre au hasard de ses lectures l'appareil inventé par le physicien alpiniste Horace Bénédicte de Saussure, qui lui permettait de faire cuire un ragoût, rien qu'en présentant à l'ardeur du soleil la surface vitrée d'un miroir.
Un matin, il se leva avec une hardiesse inattendue, prit une feuille de papier et, saisi par une inspiration primitive, copia le modèle de la marmite solaire de Saussure. Toute la nuit, il apporta des améliorations, prit des mesures, revisita les plans. Mouchot se mit en tête de construire sa première marmite solaire. Il constata que l'énergie du soleil, quand elle frappait perpendiculairement les miroirs, augmentait légèrement. Il passa l'après-midi à la déplacer en suivant le soleil. Après de multiples essais, il n'arrivait pas à dominer l'énergie solaire.
Plus il avançait dans la fabrication, plus ses expériences étaient désastreuses. Face à ses échecs répétés, il souhaita faire une autre expérience. Il se dit qu'en abandonnant les légumes et en installant une chaudière pleine d'eau à la place du récipient, la température donnerait peut-être assez de vapeur pour faire marcher le piston. Il plaça une chaudière en cuivre dans le foyer de miroir qu'il remplit d'eau dans son fond et tourna l'appareil vers le soleil. Les premières minutes, il jeta des coups d'œil rapides et furtifs, bougeant légèrement ses réflecteurs pour que la lumière les atteigne perpendiculairement. En s'échauffant, le cuivre dégagea à son tour de la chaleur, mais la perdant au contact de l'air se mit à refroidir très très vite.
Mouchot baissa les bras. Il était insensé de s'acharner. Il devait désormais se rendre à l'évidence qu'il n'était pas un inventeur, ni un savant, mais un simple professeur de mathématiques de lycée, incapable de reproduire ce qu'un alchimiste au milieu des montagnes, sans l'aide de quincaillers, était arrivé à réaliser. Ce n'était visiblement pas pour lui. Il n'était pas voué à la lumière. L'ombre l'appelait, il décida de tout lâcher.
La première réussite de Mouchot fut due à un hasard, comme souvent dans l'histoire des sciences. Pour ne pas laisser sa machine à l'air libre, il se saisit d'une des grandes ventouses que les médecins avaient utilisées pour ses poumons, parce que rappelons qu'il était très très maladif, cet homme-là. Et il clocha avec sa chaudière. Il plaça ensuite l'entonnoir sur les briques, qui sont des mauvais conducteurs, et retomba sur sa chaise, abattu. Il remuait de sombres idées, bien décidé à tout arrêter, quand il entendit derrière lui le couvercle de son récipient émettre un bruit impatient. Des bulles tapotaient, les parois montaient fiévreusement et crevaient la surface. Il souleva la cloche de verre. Un énorme nuage de vapeur lui couvrit le visage. En quelques minutes, la chaudière était parvenue à ébullition. Le soleil avait traversé la surface de verre de la ventouse, mais la vapeur était restée bloquée à l'intérieur. Il avait accumulé de la chaleur dans un point grâce à un instrument de médecine et l'avait empêché de se perdre au dehors. La concentration pratique de l'énergie solaire venait d'être découverte.
Il pouvait faire de la vapeur sans feu. Il pouvait actionner une machine à vapeur. Tout le marché de la révolution industrielle s'ouvrit à lui. Il prit sa veste et son chapeau et se rendit d'un pas triomphant au registre des brevets, à la chambre de commerce avec une naïve insolence, pour informer l'académie qu'un nouveau savant venait de faire irruption dans la science. Personne s'imaginait qu'au palais du Trocadéro, 20 ans plus tard, pendant la grande exposition universelle, on le présenterait parmi 53 000 inventeurs, 16 millions de visiteurs, au milieu d'un palais de 40 hectares de verre, où l'on exhiberait les diamants de la couronne et la tête de la statue de la liberté. Personne n'imaginait que ce serait là, au cœur du Champ de Mars, qu'il dévoilerait au monde son invention. Une cathédrale de miroirs, une machine capable de capturer la chaleur du soleil comme les barrages capturent l'eau des cascades. Mais tout ceci n'arriverait qu'en octobre 1878, sous l'hiver d'Alençon. Ce 4 mars 1861, Mouchot ne soupçonnerait rien du destin fabuleux qui le guettait quand, alors qu'il n'avait que 35 ans, il déposa son premier brevet sur l'utilisation de l'énergie solaire qu'il appela héliopompe.
Vous connaissez bien sûr la suite, hein. Bien qu'il reçoive l'autorisation de continuer ses recherches en Algérie, à leur département français, son associé lui volera ses plans. Augustin Mouchot meurt en 1912 à Paris dans la misère et retourna ainsi à l'anonymat. Alors cette histoire, j'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pourrez la voir aussi sur YouTube. On va faire une petite vidéo pour remettre les choses dans son contexte et puis pour que vous découvriez quel instrument il a inventé, parce que c'est vrai que c'est un peu technique. Donc ces informations sont tirées du livre de Miguel Bonnefoy, qui a écrit ce livre en 2022. Ça s'appelle L'Inventeur. C'est paru chez Payot Rivage. Donc c'est un jeune auteur, Miguel Bonnefoy, et on vous invite à lire ses livres qui sont tous très intéressants. On le disait en introduction, c'est un écrivain franco-vénézuélien, donc il y a tout le charme aussi de l'Amérique dite latine, l'Amérique du Sud, dans ses récits. Et grâce à lui, vous savez maintenant qui est l'inventeur de l'énergie thermique solaire. C'est ce qu'on voulait vous apporter. Donc on remercie Thomas, mon fils, qui est de passage sur Bordeaux et qui fait cet enregistrement pour vous. À très vite sur La Clé des Ondes, Histoire de voir, Histoire au pluriel. Pour accompagner cette biographie d'Augustin Mouchot, on a trouvé intéressant d'y mettre une musique que vous connaissez sûrement. C'est une musique tirée de la comédie musicale R, qui est une musique qui retraçait un peu dans les années 60 le mouvement hippie, ce qu'on appelle le New Age, au niveau des influences, mouvement hippie très concerné par la révolution sexuelle et puis surtout pacifiste contre la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, la troisième guerre mondiale, semble-t-il, semble déclarée. Et c'est bon de se rappeler un petit peu que la jeunesse à l'époque s'était fortement mobilisée contre cette guerre impérialiste. Et donc, cette comédie musicale a rencontré beaucoup, beaucoup de succès, a été jouée dans le monde entier. En France, eh bien, bien sûr, nous avons Julien Clerc qui l'a chanté, mais là, la version qu'on vous propose, c'est les Poppies, hein, jeunes gens de 10 à 15, 16 ans, des collégiens qui chantent cette chanson « Laissez entrer le soleil » en hommage à Augustin Mouchot. Et puis pour nos oreilles, parce que c'est une jolie chanson, ça nous fait plaisir de la réentendre.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tu es par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie jeter son futur dans l'espace et le silence me répond en secret, sans secret. Manchester, England, England. Manchester, England. Le marchand, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tu es par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Chantons nos rêves d'espoir sur un sitar, d'étoiles d'araignées méchantes.